Sud Radio, le grand matin week-end. Le livre du dimanche.
9h43 dans le grand matin week-end sur Sud Radio. Le livre du dimanche qui est signé Jonathan Curiel, qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions de l'Aube La société hystérisée. Comment faire redescendre la température? Vous parlez de la France, ça pourrait concerner d'autres pays. On va se focaliser sur la France. Cette société hystérisée qui voit des débats politiques d'une violence extrême, des commentaires sur les réseaux sociaux d'une violence tout aussi extrême et de tous les camps. D'abord, j'ai envie de dire à qui la faute. Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est les réseaux qui nous poussent à être comme ça? Ou est-ce que ce sont les médias, c'est-à-dire nous-mêmes, avec les débats que nous tenons, qui encourageons les autres à se conduire comme tels?
Alors, à qui la faute? Un peu à tout le monde.
Ouais.
Un peu à tout le monde.
L'œuf et la poule.
L'œuf et la poule, mais tout de même, l'avènement des réseaux sociaux a quand même créé un point de bascule assez majeur. Les médias, évidemment, participent du phénomène via la course à l'audience, le buzz, le clash, mais les réseaux, et des raisons plus profondes, sont les principaux concernés.
Oui.
Pour plusieurs raisons. L'anonymat, dont on parlait tout à l'heure, l'anonymat, les gens sont cachés derrière leur écran, ils peuvent se permettre d'être plus violents, ils ne sont pas sanctionnés, voilà.
Alors ça arrive de moins en moins. D'ailleurs, regardez par exemple les procès autour de Mila qui est harcelée. On arrive à les retrouver maintenant, les harceleurs.
Oui, les choses commencent à changer. Mais c'est vrai que l'anonymat, de manière même philosophique, ouais. le fait de ne pas être coupable de ses fautes et de ne pas être vu, a une incidence majeure. Il y a également l'aspect polarisation des réseaux qui fait que chacun reçoit des informations qui le concernent lui. Donc la société se fragmente et se compartimente. Vous recevez les informations qui vous concernent, je reçois les informations qui m'intéressent, et vice-versa, vous recevez des informations qui vous rebutent, je reçois des informations qui me rebutent.
Imaginons que je sois pro-vaccin, par exemple. Je m'abonne à des pages pro-vaccin ou anti-antivax. En tout cas, Facebook va me suggérer uniquement ça.
Ou à l'inverse, les algorithmes vont vous suggérer des informations radicalement inverses, voire outrancières sur le sujet qui vous
rébute. Réagir.
Ah, absolument. Donc il y a une prime à la réaction, et du coup, la conséquence directe pour une société, c'est de la fragmenter et de la compartimentaliser. Et chacun, du coup, est dans son silo, dans son couloir de nage, ne se parle plus et en vient à de l'affrontement.
Et pourtant, vous pointez un paradoxe. Vous êtes un homme de télé, directeur général adjoint des programmes du groupe M6. Donc, vous regardez les audiences des films au début du premier confinement. Les films qui avaient le plus de succès, alors qu'on avait une période particulièrement angoissante, c'était Louis de Funès.
Alors c'est assez passionnant, c'est-à-dire que mon livre vise quand même à décrire les symptômes, à en trouver les causes de cette hystérisation rampante de la société, et qui est quand même, comme vous l'annonciez en départ d'interview, un signe de l'époque, plus que dans le passé. Néanmoins, on constate en France et même dans le monde des signaux d'apaisement, où on sent qu'une partie de la population, et même à mon sens une grande partie de la population, se sent totalement étrangère à cette hystérisation, à cet énervement, à cet emballement, à cette perte de raison. Conséquences directes, dans le domaine médiatique par exemple, on constate toute une batterie de programmes, que ce soit ce qu'on appelle les programmes de flux, donc des émissions en direct, ou des films, qui sont des programmes régressifs, nostalgiques, de partage, de solidarité, où on peut se détendre, ce qu'on appelle un peu la télé-doudou d'une certaine manière.
Exactement, ce qui permet de nous détendre, mais pourtant c'est diamétralement opposé à ce nouveau format qu'on a vu dans beaucoup de médias, y compris à la télé, qui donne peu de temps à chaque éditorialiste de convaincre, et qui, pour vous d'ailleurs, aggrave la situation.
Oui,
vous avez des débats d'éditorialistes partout.
Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le débat est devenu binaire. C'est-à-dire que c'est pour, contre, oui, non, et de manière très rapide, soumis aux règles de l'immédiateté, de la vitesse. Et dans les médias, on s'est habitué, dans tous nos médias, à opposer les gens, avec des opinions clivées. Et c'est vrai que finir un débat sur un consensus, ou finir un débat sur une réponse non posée, ou juste problématisée ou explicitée, c'est aujourd'hui pas satisfaisant pour la machine médiatique.
C'est ça, et c'est difficile d'ailleurs, on le vit nous-mêmes, moi ça peut m'arriver aussi dans des débats que j'anime, c'est difficile de mettre en exergue quelqu'un qui est dans la nuance au milieu d'un débat, parce que du coup il se retrouve pris entre deux feux et en général les autres se liguent contre lui.
C'est compliqué, même de manière, si vous voulez, spatiale, dans un plateau on ne sait pas où le placer,
c'est
on
ça.
Met les pour, les contre,
oui,
les oui,
gauche,
les
ou
non,
de droite,
on ne sait pas où le mettre,
il est pro, ou il est anti.
Et on s'est tellement habitué à fournir aux spectateurs, aux téléspectateurs, à l'auditeur, un kit d'opinion tout fait, rapide, pour pouvoir se positionner sur un sujet qu'on en est troublé quand quelqu'un est modéré ou prône un retour à une certaine nuance.
C'est ça. On sent qu'il n'est pas clair en tout cas. Et sauf qu'on est à une époque où la politique suit aussi. Tiens, ce qui s'est passé il y a une semaine, globalement, Éric Zemmour fait une mauvaise blague avec un gros fusil. Il met en joue des journalistes. Marlène Schiappa, en Conseil des ministres, tweet pour dire que c'est un scandale. Et lui, il répond à la télé en disant imbécile. Ça veut dire que toute la société est quand même en train de suivre cette tendance, comme si on était sur les réseaux sociaux.
Oui, bah le réseau social devient du virtuel, il passe au réel. Le réseau social devient plus performatif. Performatif, ça veut dire que quand vous dites quelque chose, vous le faites. Quand vous dites quelque chose, vous l'êtes. Et donc, cette nouvelle société hystérisée fait que tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux devient réel. Voilà. Vous affirmez votre identité. On n'échange plus de l'information, on ne transmet plus de l'information, on s'affirme.
Et du coup, comment on fait pour sortir de cette logique aujourd'hui? On revient à l'échelle des citoyens lambda, on n'est pas tous obligés de se présenter à la présidentielle. Comment on fait pour continuer à consommer les réseaux sociaux, à consommer même des débats politiques, sans verser dans le sectarisme?
Il faut, je pense, se prémunir d'un certain nombre de ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire
le biais de confirmation sur lequel vous revenez en longueur.
Exactement, le biais de confirmation, c'est-à-dire de ce qu'on se disait en début de conversation, d'être conforté dans son point de vue par des articles, de se dire je peux lire autre chose, d'être un peu plus humble aussi dans la discussion, de faire preuve plus d'humilité. Je sais que je ne sais pas, de savoir que je ne suis pas forcément au courant de tout et de devoir me positionner sur tout et de faire preuve d'un peu plus d'humilité et de doute.
Ouais.
Et puis d'un point de vue politique.
Rester dans notre couloir, quoi.
Rester dans notre couloir et plus d'un point de vue politique, associer les gens à la délibération, mieux délibérer dans l'espace public, organiser des conventions citoyennes, des choses pour que les citoyens se sentent plus...
Se croisent.
Exactement. Et échangent leur point de vue sans forcément considérer que la personne avec qui je débat est un adversaire ou un ennemi.
C'est ça. Et vous y revenez d'ailleurs sur l'humilité, le fait d'admettre qu'on ne sait pas. Édouard Philippe, par exemple, c'était une de ses marques de fabrique lors de la crise du coronavirus.
Oui, alors je note ça dans le livre au début, c'est-à-dire que on a pris pour habitude d'avoir des invités sur nos plateaux télévisés et radio, d'être toujours assertif et d'affirmer ce qu'on pense. Et c'est vrai qu'il y avait une interview assez notable chez Bourdin d'Edouard Philippe, qui ne savait pas à plusieurs reprises qu'il demandait des jokers, et on pensait que ça le pénaliserait, qu'il était en plein doute, etc. Et on a vu que ça ne lui a pas desservi pour autant, et que on a le droit aussi, même quand on est dans la sphère politique,
de dire qu'on ne sait pas.
A fortiori pendant cette période de Covid qui régnait, qui baignait dans l'incertitude la plus absolue et où on a fait face à un magma de certitudes les plus absolues aussi.
Et on a beaucoup tâtonné, alors que au contraire, chez le même animateur et intervieweur, on se souvient encore depuis 2007 de Ségolène Royal qui ne savait pas combien on avait de sous-marins nucléaires et qui s'est forcé à le dire. Donc c'est vrai que peut-être les journalistes en ont trop demandé aux hommes politiques sur leur connaissances et leurs compétences. Est-ce qu'on pourrait dire une note d'optimisme malgré tout, qu'on peut garder?
Oui, une note d'optimisme, c'est-à-dire que on voit un certain nombre de signes d'apaisement tels que je vous dis. Je pense que la population dans son ensemble n'est pas dans cette logique-là. Je pense que les politiques, que la force publique s'est emparée de ces thématiques et se rend compte d'une dégradation du débat public qu'il va falloir solutionner vraisemblablement post l'élection de 2022, mais en tout cas il y a un sujet à cet égard et d'une dégradation du débat public qu'il faut améliorer. Il y a eu une expérience très rapidement aux États-Unis qui a été menée avant l'élection de Trump, qui s'appelle America in One Room. On a rassemblé 500 Américains dans une même pièce. Ils étaient totalement opposés sur 80% des sujets, avec un taux de polarisation très élevé. Pendant plusieurs semaines, on les a fait bûcher sur toutes les thématiques intéressantes et importantes pour l'élection de Trump de 2020, pardon. Et on s'est rendu compte à la sortie, après des semaines de débats, de discussions, des experts, d'échanges approfondis, que les positions étaient réduites à 20% d'écart versus 80% au départ.
Donc, réapprenez à vous connaître,
absolument,
en fait, et à échanger, ce sera forcément le plus simple. Merci beaucoup, Jonathan
Curiel. Merci à vous.
La société hystérisée, c'est publié aux éditions de l'Aube. On vous le recommande d'ailleurs sur Sud Radio. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes par ailleurs directeur général adjoint des programmes du groupe M6 et de toutes les chaînes du groupe M6. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Restez sur Sud Radio, les amis, d'ailleurs. On est ensemble jusqu'à 10h. Tout de suite, on profite de nos vacances de la Toussaint.